BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h, dans une toute petite poignée de secondes, on continue à vous accompagner sur l'antenne de BFM Business, BFM Patrimoine, jusqu'à midi pour vous donner toutes les clés pour gérer au mieux votre argent. Mais cette heure ne pourrait pas commencer sans un survol tout à fait complet de l'actualité économique. Et c'est avec Raphaël Coudert.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, les industriels de l'agroalimentaire reçus à Bercy ce matin alors que le gouvernement les presse de renégocier leurs tarifs avec les distributeurs. En cas de refus, Bruno Le Maire menace de faire du name and shame ou même d'employer des instruments fiscaux pour récupérer des marges qu'il qualifie d'indues et faites sur le dos des consommateurs. Les syndicats renouent le dialogue avec la Première Ministre. Elisabeth Borne reçoit ce matin les représentants de la CFE-CGC suivis de ceux de la CFTC. Hier, Force ouvrière et la CFDT ont redit leur opposition à la réforme des retraites. La question des salaires a également été au centre des discussions. Le taux de chômage est resté stable au premier trimestre à 7,1% selon des chiffres publiés par l'INSEE ce matin. Il reste inférieur de 0,3 points à son niveau d'il y a un an et il est même au plus bas depuis 40 ans. En effet, si l'on met de côté la crise sanitaire, il faut remonter au deuxième trimestre de 1982 pour retrouver un niveau équivalent. Dans l'actualité des entreprises, Vallourec démarre l'année sur les chapeaux de roue. Le sidérurgiste publie un chiffre d'affaires en hausse de 46% au premier trimestre. Son activité est surtout soutenue par d'importantes prises de commandes, notamment de la part des compagnies pétrolières du Moyen-Orient. C'est en revanche plus contrasté pour Iliad. Le groupe Télécom enregistre certes une croissance de ses ventes et de son nombre d'abonnés, mais il voit son bénéfice s'effondrer de 88% au premier trimestre. Iliad est plombé par l'inflation, notamment par la hausse des prix de l'énergie. L'agence Fitch dégrade la note de Casino et juge désormais qu'il existe un risque de défaillance très important de l'entreprise. Hier, le distributeur annonçait qu'il se donnait jusqu'au 23 mai avant une éventuelle conciliation sur sa dette. Cette décision va mener à une forme de restructuration, estime Fitch, alors que Casino est aujourd'hui endetté à hauteur de plus de 6 milliards d'euros. Et puis dans le reste de l'actualité, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis. Il va se pourvoir en cassation.
Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Coudert, chaque heure, pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Retrouvez Henrik Christino. Bonjour Henrik.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous en ligne depuis la salle de marché de Ports-en-Parts. Que dire de cette tendance, de ces 7400 points? Comment vous voyez les choses?
Alors, ce qu'on constate déjà depuis un petit moment, c'est qu'on est sur une ligne de flottaison sur, en tout cas, l'indice parisien autour de 7400 points, une fois au-dessus, une fois en dessous, avec des variations qui sont autour de 0 plus, 0 moins. Et ça, ça fait déjà pas mal de séances qu'on observe ça. À l'intérieur du marché, c'est vrai qu'on peut avoir des arbitrages, parfois intraday, qui peuvent être assez importants. Malgré tout, on reste autour de 7400 points. Donc, une très grosse indécision. Beaucoup de choses pour cela, c'est que on y va un petit peu. Enfin, pas très clair sur les publications du T2 de l'année en cours. Les discours des entreprises, pour une partie, sont un peu plus posés, plus nuancés en tout cas que sur la fin d'année passée. Et puis, il y a toujours ces histoires d'inflation, on ne sait pas trop comment vont évoluer de façon certaine les politiques monétaires, donc beaucoup d'indécisions sur les prises de position des intervenants de marché.
Voilà donc quelques idées sur cette tendance globale. Après quelques dossiers que vous souhaitiez éclairer ce matin, on commence par Elior.
Oui, Elior, en fait, publication qui facialement est pas mauvaise. Le chiffre d'affaires donc sur le S1 est en croissance d'un peu plus de 10%. avec une croissance organique qui est plutôt assez intéressante, autour de 14%. Il y a un effet de change favorable d'1,8 % et une variation en fait de périmètre négatif suite à l'arrêt de l'activité industrielle Preferred Mills aux États-Unis. Sur une base de comparaison, une base comparable, le chiffre d'affaires serait en augmentation de 12,5% avec un effet volume de plus 8%. Donc ça, c'est plutôt pas mal, un volume un peu supérieur. Et puis surtout, une hausse de prix qu'ils ont négocié de 4,5%. Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires serait en croissance organique de 16,5%. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ce que je note aussi, c'est le taux de rétention qui est stable autour de 91,3% au 31 mars 2023. Après, si on regarde un peu plus en détail les comptes, il y a l'EBITDA qui ressort à 41 millions d'euros. Là aussi, c'est en très forte amélioration par rapport aux 16 millions de pertes qu'il y a eu sur la même période de l'année passée, ce qui fait une marge d'EBITDA de 1,7%. Donc là aussi, on était négatif l'année passée. L'explication de ce redressement vient de plusieurs facteurs. Déjà, un rattrapage d'Omicron, des hausses de prix supérieures en fait à l'impact de l'inflation, des gains d'efficacité opérationnelle, la sortie de certains contrats qui n'étaient pas assez intéressants et l'arrêt en fait de Preferred Mills qui était déficitaire. Donc, il y a des éléments un peu positifs. Si on regarde, pareil, le free cash flow s'améliore assez nettement. L'endettement financier là aussi est contenu. On est en dessous en fait des convenances fixées par les créanciers à 7,5 fois. Après, il y a des faits marquants sur cette période. Déjà, ils ont bouclé l'acquisition de la branche multiservice de Derichebourg, qui devient premier actionnaire à 48,4% contre 24%. Précédemment. Maintenant, ce qui douche un peu le marché et ce qui explique la baisse, c'est la croissance organique. Alors, quand on a donné les éléments du S1, on peut s'attendre à une croissance. On aurait pu s'attendre à une croissance organique supérieure aux 10% annoncés par la société, et surtout la marge d'EBITDA qui va plutôt évoluer dans le bas de la fourchette. Donc, il y avait de meilleures espérances pour la deuxième partie de l'année. Maintenant, ils maintiennent toujours des synergies d'au moins 30 millions d'euros en rythme d'EBITDA en rythme annuel à l'horizon 2026 après le rachat de Derichebourg Multiservice. D'accord. Avec des effets positifs sur la deuxième partie de l'année.
Voilà donc pour ce dossier. Elior, un mot rapide sur Actia Group ?
Oui, Actia, c'est une publication qui est au-dessus de nos attentes du fait de la bonne performance de la BU Télécom. On s'attendait à pas de croissance du tout, ils sortent 46% de croissance. Donc plutôt des éléments assez intéressants. Même sur les autres activités, ça reste très très soutenu avec une croissance autour de 20% sur la partie automotive. Et ce, malgré l'arrêt d'un contrat avec Volvo qui a un impact négatif de 10 millions d'euros. L'objectif de la croissance sur 2023 est confirmé supérieur à 15%. Il voit pas de ralentissement sur la dynamique de prise de commande. C'est plutôt une bonne publication.
Merci beaucoup Henrik Christineau, donc Portzamparc, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien qui reste pour le moment assez hésitant autour des 7400 points. Pour le moment, on est entre guillemets du mauvais côté de la barrière, 7398 points sur une baisse de 0,1%.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Véronique Riche-Flores et Thibaut Prébet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être là. Véronique pour RF Research, Thibaut pour Financière Arbevel. Bon, on est là en train de tourner autour des 7004. Henrik nous rappelait que ça faisait quand même plusieurs jours maintenant qu'on était un petit peu dans cet étiage-là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est finalement l'heure de la pause en bourse Thibault.
Oui, absolument. On a une volatilité qui s'est un peu effondrée. On a vécu des séances où on bougeait sur 10 points, alors même que l'actualité sur les problématiques, par exemple, de plafond de la dette aux US pourrait sans doute le justifier d'un peu plus de nervosité. C'est aussi le symptôme d'un marché haussier. c'est-à-dire qu'un marché qui, depuis le début de l'année, est très résilient. Dès qu'il ouvre un peu en baisse, il regrignote toute la journée. Voilà. On sait que quand il y a des plus 4, c'est souvent quand il y a beaucoup de moins 5 à côté, c'est souvent des marchés assez baissiers. Quand on commence à avoir des journées beaucoup plus calmes, c'est des marchés qui sont en plein rebond. Ça ne veut pas forcément dire que ça va durer éternellement, mais en tout cas, on est clairement dans un flegme et une solidité, peut-être pourrons dire un calme des marchés qui est assez impressionnant et qui est plutôt positif. On ne peut pas vivre toute notre vie sans faire des ulcères si les marchés bougent de 3 tous les jours. Donc je pense que pour tout le monde, y compris sur ce plateau, c'est pas plus mal de voir un peu d'accalmie, surtout en plus après en devant digérer des salves de résultats qui ont été assez denses.
Un peu la pause, oui. Vous le ressentez comme ça aussi sur nos marchés, Véronique ?
Oui, pause et attente, j'ai envie de dire. Attente notamment du signal, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de ça, du signal enfin de l'arrêt définitif des hausses de taux. Alors, on a plutôt les yeux rivés sur la Fed. Hein. On envisage tous que la BCE puisse prendre un tout petit peu plus de temps. Mais le gros signal, il viendra de la Fed. Hein. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'attendent les marchés. Enfin, ce que donne l'impression d'attendre les marchés. On a des résultats qui tiennent quand même la route. Pour l'instant, on a des poches dans l'économie qui craquent. Hein, l'immobilier, les achats de biens durables. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que, en termes de croissance, c'est pas là. Et ça risque de se détériorer. Mais pour l'instant, ça fait partie des risques. Et la contrepartie, c'est qu'à contrario, on attend plutôt un assouplissement des banques centrales. Donc voilà, je pense que le marché attend la validation de cet arrêt du point haut des taux d'intérêt pour peut-être effectivement décoller un petit peu plus.
Alors vous avez prononcé le mot du plafond de la dette. Il y a quelques grosses semaines, on va dire, quand on a commencé à le révoquer sur le plateau, ça faisait plutôt rigoler tout le monde. Et puis quelques semaines après, finalement, c'est devenu le sujet de préoccupation d'une partie du marché. Avec ce chiffre, 88 milliards de dollars, c'est ce qui reste au fond de la poche de Joe Biden pour terminer le mois. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette question-là ? C'est pas anodin quand même. Donald Trump a essayé de le rendre anodin en disant à ses troupes provoquer le défaut, mais...
D'abord,
c'est pas une blague.
D'abord, c'est pas beaucoup ce qu'ils ont au fond de la poche, premièrement. Deuxièmement, effectivement, à force de, c'est comme ce qu'on raconte aux enfants, hein, à force de crier au loup. Mais c'est vrai qu'on a eu des stress récurrents par le passé sur cette histoire de la dette et que finalement, ça a toujours fini par passer avec des accords plus ou moins dans les temps. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de grandes interrogations. Ça nous rappelle que la situation des finances publiques est très critique et ça, c'est pas une histoire conjoncturelle, c'est une histoire structurelle. Hein. On regarde le graphique tous avec ce plafond de la dette et c'est une histoire qui va manifestement pas s'améliorer compte tenu des perspectives structurelles de croissance et du vieillissement démographique, etc. C'est ce que nous rappelait d'ailleurs le FT ce matin. Donc ça pose beaucoup de questions. Bien évidemment, un risque immédiat. C'est quoi un défaut de l'État américain ? C'est quand même pas tout à fait anodin. En même temps, on voit qu'il y a potentiellement des réponses et parmi des réponses, des choses également, cette proposition donc de frapper une pièce de 1000 milliards de dollars en platine de Janet Yellen et d'autres d'ailleurs, hein, qui nous ramène à des histoires très très lointaines. On se dit, mais c'est quoi la monnaie ? C'est quoi le dollar in fine ? Et jusqu'où on va comme ça ? Donc, la conclusion, c'est qu'on va certainement pas en direction d'un arrêt des quantitative easing et d'une réduction des bilans des banques centrales. On a plutôt envie de dire, c'est QE for eternity. On en parlait il y a 3-4 ans, mais là, on a quand même l'impression que ça nous ramène. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop, hein, inflation. En réalité, parce qu'on est à des niveaux d'endettement au niveau des États qui sont évidemment
faut trouver quelque chose pour raboter.
Et à un moment donné, il faudra que ça se normalise. Personne ne sait dire quand ni de quelle manière, mais c'est véritablement ça, avec un rappel également sur la faiblesse structurelle du dollar qui est liée à cette situation qu'on voit pas trop aujourd'hui. Le dollar se réapprécie un tout petit peu, mais fondamentalement, ça pose beaucoup de questions effectivement.
Thibault, comment vous le... Parce que ça a été longtemps un feuilleton. Enfin, nous, on est contents. On est en train de réchauffer les walls qu'on avait derrière avec le joli countdown, machin, etc. quand il allait avoir le vote. Donc,
C'est pour ça qu'ils le font. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Nick très intéressantes. Et il y a des choses que je voudrais rajouter. Premier point, c'est qu'il faut se rappeler que le problème de plafond de la dette dans l'actualité, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça fait 3-4 ans qu'on a des sujets autrement plus inquiétants et graves. Et le fait que ça nous occupe, ça montre qu'on n'est plus toute la journée en train de parler de 100 millions de personnes confinées, l'économie à l'arrêt ou de choses comme ça. Ça reste malgré tout important. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est... voilà. Le deuxième, c'est que c'est un serpent de mer. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que c'est des choses qui reviennent très régulièrement avec des solutions plus ou moins en amont. Parfois, c'est trouvé finalement assez en amont. Parfois, pas du tout. Je vous rappelle avoir parlé avec vous, il y a peut-être 6 ou 7 ans sur ce plateau, Cédric, des IOU. On disait l'État américain va émettre des IOU. Alors le français se dit qu'est-ce que c'est que ça, IOU? En anglais, ça se dit IOU, c'est-à-dire je vous dois de l'argent, c'est-à-dire des reconnaissances de dette pour payer les fonctionnaires au lieu de leur donner de l'argent pour pas casser les plafonds. Donc c'est des choses dont on a déjà vu, qui sont rebattues, qu'on connaît. Personne n'a l'intérêt d'avoir le tort, donc il y aura ce qu'on appelle une sorte de blame game où chaque partie dira c'est la faute de l'autre, qu'il faut pas les efforts. Puis à la fin, ils trouveront un deal. Je pense que c'est pas un sujet colossal. Puis le dernier point, effectivement, c'est aussi le symptôme du fait que la notion de dette est une notion qui perd un peu de sens. Que le sujet de dire que c'était un problème est quelque chose qui est quand même devenu un peu passé. On le voit en France hein, avec des économistes, des gens médiatiques comme Thomas Porcher, mais même dans les programmes de grands partis, des gens qui considèrent maintenant que les critères de Maastricht, c'est-à-dire 3% de déficit, c'est de l'austérité. Ce qui est quand même un truc qui aurait fait hurler et fait quelques crises cardiaques à des Allemands il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on peut le dire sans que ça choque, alors que ça paraît quand même, si on le ramenait à d'autres types budgétaires, des budgets de famille ou autres, bon, si vous dites... là, on est vraiment en train de faire des économies ras la gueule puisqu'on ne s'est endetté que de 30 000 euros de plus cette année, tout le monde dirait, mais c'est quoi ce délire? Donc, on voit que l'endettement est passé dans une autre ère. Nous, on a une théorie quand même, malgré tout, qui permet de supporter ça, c'est de rappeler deux choses. Un, quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a un problème, il y a moins de problèmes. On trouve des solutions. L'exemple classique, une société en difficulté, elle est en difficulté. Quand c'est 2020, on fait des PGE et tout le monde s'en sort à peu près. Quand il y avait trop de dettes, mais que c'était uniquement la Grèce, ça finit en restructuration. Quand il y a trop de dettes partout, bah, toutes les banques centrales de tous les, ont racheté 30% de la dette de tous les États en leur redonnant les coupons, ce qui fait que la dette est de facto stérilisée. En fait, si vous enlevez 30% au ratio d'endettement européen, vous êtes pas très loin des ratios des années 2000. Donc, ouais. En fait, vous êtes dans des choses que vous... En fait, la force de cette situation, c'est qu'en fait, tout le monde a le même problème. Et que dans ces cas-là, en général, on trouve des solutions. Une seule personne a un problème, c'est plus problème, c'est plus gênant. Mais cette perte de notion de ce qu'est une dette et du fait qu'on nous force à mettre qu'une dette vous oblige et doit être remboursée quand vous prenez un crédit, et quelque chose qui est parti assez loin, ça aura effectivement des conséquences qu'on maîtrise probablement pas encore tout à fait et sur lesquelles il faudra se repencher.
C'est un problème économique ou c'est juste un problème politique, là?
Les questions sont compliquées aujourd'hui. Hein.
C'est un problème économique, d'abord, parce qu'effectivement, on voit que nos économies, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas évoluer décemment sans un soutien considérable des États. C'est un problème économique et géostratégique, parce qu'on est rentré dans une ère de bataille et de conflits, de guerre commerciale, pour simplifier, mais qui pousse les États à investir, à dépenser dans la défense, dans les infrastructures, etc. Mais là, on commence à toucher la politique. Et c'est un problème politique parce qu'il y a l'opposition, effectivement, oui. Et l'absence de majorité, effectivement, au Congrès des démocrates. Donc, avec un jeu politique qui a été mis en exergue par les propos de Donald Trump la semaine dernière. Hein. Donc, voilà, mais c'est je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On rentre dans une nouvelle ère qui est une ère, c'est plus le monde des bisounours, hein, c'est le monde de celui qui arrivera à défendre le mieux ses intérêts. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, la première poche de financement ou d'action, elle devient publique. Ce sont les politiques publiques qui sont au cœur aujourd'hui véritablement de nos économies et de la stratégie économique.
Mais justement, ces politiques publiques, elles sont aussi soumises à la réalité sonnante et trébuchante des budgets, des crédits. Enfin voilà, quand on voit tout le discours de la Fed autour justement du manque de choix des politiques publiques, quand on voit la Fed qui craint une contraction plus large du crédit, on se dit que Thibault nous disait ça veut dire qu'il y a plus de sujets très graves. Il y a encore quand même quelques sujets pas faciles qui traînent sur la table, non ?
Il y a des sujets pas faciles. Il y a toujours effectivement le rappel à l'ordre du niveau d'endettement qui fait que certains politiques peuvent être tentés de freiner des cas de fer. Hein. Et puis, il y a les enjeux. On prend l'Allemagne, par exemple, qui est un excellent exemple. Hein. L'Allemagne qui est face à des enjeux de nature structurelle qui visent presque son indépendance dépendance ou sa défense. Et à partir de là, eh bien, les murs qui étaient des gros murs apparemment inamovibles il y a 10 ans deviennent des murs qu'on repousse. Et c'est véritablement là qu'on va. Quand on voit l'évolution des finances publiques en Allemagne, on se dit, bon, ben oui, d'accord. Donc l'Allemagne ne peut pas dire, nous, on va faire ça. Mais vous allez continuer ou vous serrez la ceinture. Donc on voit bien la direction que prend l'Europe, d'ailleurs, dans sa globalité sur ce sujet-là. Ça posera un problème. La vraie question pour un économiste, presque aujourd'hui, c'est de se dire, mais avec tout ça, plus l'inflation, comment se fait-il que les taux d'intérêt à 10 ans soient encore là où ils sont et pas 3 points de plus ou 5 points de plus? Donc c'est là qu'effectivement, à un moment donné, les banques centrales n'auront pas le droit à l'erreur, mais où est l'erreur ? D'en faire trop, d'en faire pas assez, c'est pas évident dans le contexte en présence. Et on risque à un moment donné d'être face à des mouvements peut-être imprévus et imprévisibles d'ailleurs sur les taux, la partie longue des taux d'intérêt. Je pense que peut-être qu'un pays à suivre, peut-être un peu plus que les autres à ce niveau-là, c'est peut-être l'économie britannique. L'économie britannique, où là d'ailleurs on a un peu plus de boucle prix-salaire que partout ailleurs. Et on voit bien que la Banque d'Angleterre, si elle ne fait pas le job, elle risque d'être véritablement beaucoup plus sanctionnée, comme en septembre d'ailleurs l'an D'accord. dernier, notamment au niveau de son taux de change.
Qu'est-ce que ça vous dit des autres petits sujets qui traînent sur la table quand même, voir par exemple cette Fed qui craint une éventuelle contraction plus large du crédit, ça, vous le redoutez aussi ou...
Alors c'est évidemment un sujet, il faut juste modérer le fait que l'immobilier américain vient de connaître des performances hallucinantes, donc le fait que ça rebaisse un peu n'est pas en soi une catastrophe. Pareil sur l'immobilier commercial. Après, les sujets systémiques, il y en a toujours. Là aujourd'hui on se dit, il y a quand même beaucoup de bureaux qui perdent de la valeur avec le télétravail, donc il y a peut-être des prêts commerciaux pour les bureaux qui peuvent être en difficulté, mais on a toujours ça. Il y a toujours des sujets. L'expérience qu'on a malheureusement sur les marchés, c'est que les gros plombs viennent de trucs qu'on ne voit pas venir. Et qu'en fait, tous les sujets qui sont déjà mappés, qui sont déjà connus, sont en fait des sujets qui sont généralement, globalement, traitables. Mais c'est vrai qu'on a un niveau d'incertitude sur des données très globales et très macro qui est assez étonnant, qui est assez inhabituel. On peut aujourd'hui justifier le fait qu'on commence à avoir des spirales déflationnistes sur les biens qui s'auto-alimentent et que ça peut aller très vite. On peut argumenter le fait qu'on est plutôt dans un monde inflationniste, de relocalisation, etc., de pays comme la Chine qui ont un niveau de vie qui a monté, qui ne peut plus faire baisser les prix. Et donc, on peut avoir des gens qui ont des scénarios d'inflation à 5-6 ans qui sont radicalement opposés, où tout se défend. Donc, on voit qu'on est dans une phase qui est à la fois une phase où on a une visibilité sur les résultats, une solidité, une résilience qui est intéressante et qui se justifie par une baisse démographique qui en fait sature les marchés de l'emploi un peu partout, et quand les marchés de l'emploi sont saturés, les gens ont du pouvoir d'achat et les économies vont bien, et en même temps une terra incognita sur l'avenir de la dette, de l'inflation, parce que on est dans un switch un peu général et des sujets d'inflation salariale versus manque de consommation si la population vieillit, ce qui fait que on est quand même aujourd'hui dans un no man's land économique avec des incertitudes de prévision à 5 ans sur les agrégats majeurs qui sont probablement historiquement élevés, et en même temps, quand on regarde les sociétés, les indices, une résilience et des résultats qui progressent de manière finalement hyper graduelle. Donc une situation qui est atypique, intéressante, mais probablement moins catastrophique que dans 2020 et la suite du Covid.
Juste avant de dire un mot de nos portefeuilles, etc., un petit regard sur la Chine, parce que depuis des mois, on nous a dit attendez, ça y est, ça va redémarrer, ça va se rouvrir, vous allez voir, ça va être fantastique. Puis là, on n'a pas l'impression que ça fasse tant d'étincelles que ça, cette Chine. On a eu quelques éléments là sur les tout derniers chiffres, notamment des ventes de détail, etc., qui font croire que c'est un peu un pétard mouillé. Faut voir les choses comment.
C'est ce que j'allais reprendre comme image par rapport à l'étincelle. Pchit, c'est incontestablement, ça est pchit. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un rattrapage, la réouverture se voit. Elle est, ce rattrapage est néanmoins extrêmement centré sur les services, un peu comme ce qu'on a connu dans nos économies d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe ces derniers trimestres. C'est là que les Chinois utilisent d'ailleurs une toute petite partie de leur bas de laine. L'épargne stockée reste considérable. Par contre, toute la partie industrielle du pays reste quasiment à l'arrêt. Enfin, on peut utiliser ce terme compte tenu des tendances historiques en Chine. Il n'y a pas d'exportation. très peu. Là, il n'y a pas d'investissement, sauf la partie financée par, par les dépenses publiques, infrastructures, utilities. Et finalement, on a eu, y compris donc, ces chiffres de prix industriels, prix à la production, qui sont en territoire négatif. On n'est pas loin d'une situation... On a envie de dire presque de déflation dans l'industrie, hein. Donc ça va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça empêchera pas la Chine de continuer à rattraper du terrain économique. Ça l'empêchera en réalité de jouer le rôle de locomotive, oui, à l'égard du reste du monde, avec un effet
sur ce que tout le monde attendait, en fait,
sur l'Allemagne, le Japon. On voit les chiffres du Japon ce matin, hein. Bon, niveau domestique, ça reprend un petit peu, mais alors les exportations, boum. Et finalement, en Allemagne, la grande déception pour des pays dont la stratégie économique était encore avant-hier, hein, orientée, tout focus sur la Chine et le monde émergent, c'est pas ça qui se trame. La Chine est surendettée, l'industrie a beaucoup de mal à repercer au niveau mondial, et le marché immobilier est en pleine crise, et probablement une crise durable, quelles que soient les dispositions que prenne le gouvernement du reste. Donc, voilà, c'est une nouvelle réalité. Alors, la contrepartie, c'est que, bien évidemment, pour le pouvoir chinois, c'est à peu près inacceptable. Ça veut dire que, du coup, on déploie tout ce qu'on peut sur le plan géopolitique, géostratégique. Et c'est, alors, c'est pas une nouvelle menace, hein. En réalité, ça a commencé avec les nouvelles routes de la soie. Mais là, ça prend une nouvelle tournure. Et c'est plutôt à ce moment-là, de ce côté-là, qu'on va regarder les développements chinois plutôt que l'espoir d'un quelconque soutien économique.
Un mot sur la Chine, à ajouter sur la Chine, ou on passe au...
Non, ce qu'on peut dire très simplement, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc aussi en Chine, c'est qu'il y a deux phases en Chine. Il y a la phase inflationniste, la phase déflationniste. La phase déflationniste, c'est produire moins cher pour vendre des trucs pas chers au reste du monde. Ça, c'est à nouveau reparti, avec en particulier ces problématiques qu'on connaît de chaînes de production qui sont améliorées. Mais le problème, c'est que là, ça arrive à un moment où le reste du monde a une consommation qui fait un peu la fin du cycle Covid. Mmh. Donc, où il y a déjà du surstockage. Donc, on peut considérer que c'est peut-être plus la faute du surstockage que de la Chine qui ne serait pas capable de produire. Mais il y a momentanément probablement un creux. L'autre partie de la Chine qui est très inflationniste historiquement, c'est cette construction immobilière qui prend une part énorme des matériaux de construction mondiaux. Et à partir du moment où on a un pays qui va passer d'1,4 milliard d'habitants à probablement 450 d'ici 2100, l'idée qu'on retrouve des énormes vagues de construction en Chine semble quand même moins probable. Parce que le fait que la natalité continue à fortement baisser depuis qu'on a autorisé un deuxième et un troisième enfant donne pas l'impression d'un pays qui va avoir besoin de logements. Alors il y a toujours des améliorations à faire, mais cette tendance très forte de construction est probablement en train de s'arrêter, et sa participation naturelle à l'inflation mondiale est quand même probablement à remettre un peu en question. Pour autant, attention, on a des cycles de sortie de Covid qui sont très erratiques. On a vu des secteurs faire plus 100 quand on est sorti du Covid en Europe, puis faire moins 40 en chiffre d'affaires. La Chine rentre dans cette phase-là. C'est des phases erratiques qui sont pas linéaires, qui sont très différenciées secteur par secteur. Donc, en tirer au bout de quelques mois des conclusions globales est un exercice difficile. Mais pour autant, clairement, on n'est pas dans le feu d'artifice espéré. On peut pas dire le contraire.
Allez, on termine. Il nous reste une petite minute trente, donc va pas falloir être trop long sur des questions un peu de portefeuille, etc. Voilà plusieurs semaines qu'on discute de savoir s'il faut ajuster son portefeuille, s'il faut regarder la typologie des valeurs et autres. Et il y a plusieurs signaux qui ont eu lieu sur l'antenne. Nos traders qui ont commencé à nous dire « Ah, telle et telle petite et moyenne capi, elle commence à se réveiller techniquement, hein, je parle. » Et puis, mes spécialistes de la sélection, on verra tout à l'heure s'ils confirment. On se donne rendez-vous dans la dernière demi-heure, mais... Qui commence à dire, tiens, notre portefeuille très typé grande cap, il va peut-être falloir revoir. Est-ce que vous sentez quelque chose sur ces petites et moyennes capis dont on a dit depuis longtemps, elles sont à la bourre?
En fait, il vous faut une réponse plus courte que la question.
Ouais, c'est ça. J'ai pris la moitié de la réponse.
En réalité, on a des signaux forts liés, un, à des retours d'OPA. On en a eu quelques-unes. On pense à Villemorin, Majorelle, des retraits de la cote. Des stratégies de private equity qui se disent retirons des sociétés de la cote, c'est moins cher que ce qu'on peut acheter sur le marché, des résultats aussi qui sont très résilients, et puis des décotes un peu débiles. C'est-à-dire, pour donner un exemple très simple, avec la crise de bancaire, les small caps sont revenus à zéro après un bon début d'année. Quand on prend un fonds comme notre fonds Plus-Value Initiative PME, il y a quasiment la moitié des sociétés dedans qui n'ont pas de dette. Donc l'idée que les problématiques bancaires sont gênantes pour des sociétés qui n'ont pas de dette, c'est un peu bizarre, alors que des sociétés d'infrastructure ou de télécom qui sont très endettées pourraient être plus touchées. Donc il y a des décotes assez historiques, des niveaux de valo qu'on a touchés qu'en mars 20, 11 et 8 et 9 avec des rebonds qu'on connaît. Donc je pense qu'il y a un intérêt légitime des investisseurs avec un retour, d'autant que certaines hautes parties de la cote, on peut penser par exemple aux actions US, commencent à retrouver des niveaux de valo qui sont plus scélérates, même si c'est porté que pour les petits. Donc je pense que la fenêtre d'opportunité est clair. Attention, on a eu des faux départs par le passé, y compris en début d'année, mais il y a des raisons légitimes de penser que si tout le monde s'intéresse à des valos basses, commence à essayer de les retirer de la cote, l'intérêt des investisseurs devrait être convergent et plus élevé.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé au cours de Regards Croisés ce matin. Véronique Richelorez, donc RF Research, et Thibault Prébet pour Financière Arbevel. Merci. Dans un instant, Regard Technique avec Gilles Santacreux. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et comme à l'entame de chaque demi-heure, on file sur le marché, c'est Gilles Santacreux qui, depuis boursicoté.com, suit ce matin la séance pour nous. Que se dit-on sur ce marché qui semble quand même, quand on regarde la courbe, assez hésitant, qui n'ose pas sortir la tête de l'eau quasiment?
Oui, la situation reste inchangée. On est toujours dans cette phase d'attente. On a eu les chiffres de l'inflation en zone euro tout à l'heure qui se sont révélés donc à 7%, donc pile dans le consensus qui était défini. Donc pas de réaction par rapport à la diffusion de ce chiffre qui était attendu, dont on sait qu'il a une grosse influence sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Pas de changement à ce niveau-là. On attend donc maintenant des statistiques cet après-midi. Au niveau du marché, globalement, donc on reste toujours sous cette zone des 7400 points. Les zones d'alerte restent à changer. Donc on a 7355 en intraday et 7320 d'un point de vue global qui pourrait donc nous provoquer un signal de poursuite donc et de reprise même d'un mouvement baissier. Ce que l'on peut noter, c'est depuis quelques jours la remontée du dollar index. Alors le dollar index, il a marqué un support à 100.5 et on vient de recasser à la hausse une zone qui nous donne un signal technique de reprise donc du mouvement haussier sur le dollar à 102 puisqu'on est actuellement aux alentours des 102.80. Donc cette hausse, elle se traduit par une baisse de la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar a cassé ses 1.0925 et se dirige désormais vers une zone de support à 1.0780. On a l'or aussi qui a lâché sa zone des 2000 dollars l'once et qui redescend potentiellement vers 1960 dollars l'once. À part ça, on n'a pas grand chose. Donc cette zone d'attente, d'accord, sur les indices, donc une hausse du dollar au niveau des monnaies, malgré justement les problèmes que l'on a autour du mur de la dette. Le marché reste rythmé par des diffusions d'entreprises qui sont assez partagées. On n'a pas de diffusion majeure en France cette semaine. Donc globalement, on est dans une zone d'attente qui correspond à, une attente d'un signal fort qui pourrait nous redonner du directionnel. On le voit, on a très peu de volume, on n'a pas de directionnalité. Et toujours, on attend le signal technique par rapport à cette zone de consolidation horizontale que nous avons actuellement.
7399 points pour le CAC qui, pour le moment, perd très modestement 0,09%. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux, depuis boursicoté.com.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
On ne manque pas de s'interroger sur la façon de sortir de nos énergies fossiles. On se demande aussi comment limiter l'inflation dans ce monde-là et comment peut-être ne pas tomber dans d'autres dépendances. Tout ça occupe matière à réflexion ce matin et on en parle avec Maria Eugenia Sanin. Bonjour Maria Eugenia.
Bonjour.
Merci d'être là, maître de conférence en économie à Paris-Saclay. Quelles sont d'abord les matières premières dont on a besoin en priorité pour la transition énergétique?
Donc on aura besoin des cuivres pour l'électrification des sauts de sauçage et on aura besoin de terres rares mais en petite quantité et la clé c'est le matériau qu'on utilise pour les batteries parce que comme vous savez, la décarbonation passe surtout pour la décarbonation des transports. Mmh. Et donc, on va avoir besoin surtout de lithium, en plus de manganèse, nickel, cobalt, mais c'est surtout de lithium, qui est très légère et très, il a une connectique qui fait que nous permet de garder de l'énergie et du coup de nous transporter en voiture électrique.
Et donc il va falloir que la production suive cette demande nécessaire et c'est pas gagné, c'est ça?
Ce n'est pas du tout gagné, effectivement. Donc la demande de lithium va augmenter, donc les projections disent 20% par an d'ici 2040, tandis que l'offre ne peut pas suivre pour l'instant, vu que ça prend entre 5 et 10 ans pour monter la chaîne de valeur jusqu'à donc la mine et le raffinage et la production des cathodes et anodes, jusqu'à qu'on puisse parler d'assemblage de batteries dans les gigafactories.
Bon, et on sait que ce lithium, il n'est pas tout à fait pour le moment situé chez nous, quoique... Il y a Imerys notamment qui en cherche ou qui voudrait en trouver dans l'Allier, c'est ça ? C'est une bonne nouvelle ?
Bah en fait, c'est vrai que Imerys dans ses rapports dit qu'il pourrait équiper 700 000 voitures, mais si on croit à nos propres projections et volonté de décarboner notre flotte, effectivement, vu que on immatricule 1,5 million de voitures par an, il nous faut et beaucoup plus de lithium. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc,
il va trouver que dans l'Allier, quoi.
Effectivement. Donc, il va falloir trouver des alliés, plutôt.
Ouais, comment on peut combler justement ce qui va manquer?
Une possibilité, et certaines actions de la Commission européenne vont dans ce sens déjà, c'est de trouver des alliés stratégiques, par exemple dans des pays latino-américains qui ont du lithium en abondance. Et il va falloir aussi réfléchir aux autres étapes, ça c'est très important, du raffinage, etc.
Le cycle que vous évoquiez avant, on a vu dans l'actualité notamment ces gigafactories, comme on dit, qui poussent, ou en tout cas qui veulent pousser. Quelle est la situation en Europe, justement ?
En fait, en Europe, on a beaucoup de gigafactories qui commencent à apparaître. On les appelle gigafactories juste parce qu'elles sont grandes.
Les grandes usines, quoi.
Mais on oublie un peu que ces gigafactories dépendent de pouvoir recevoir les cathodes pour pouvoir assembler et produire les batteries. Donc, on est un peu en retard et il va falloir réfléchir à l'amont et aussi...
Oui, parce qu'en fait, on se réjouit en se disant on va produire une batterie, entre guillemets, européenne, etc. Mais pour le moment, tout ce qui va composer la batterie viendra d'ailleurs, notamment de Chine, c'est ça ?
Oui, ça c'est une question très intéressante d'ailleurs. Et on dit souvent que la Chine domine le marché du lithium, et c'est vrai, mais c'est pas à cause de l'abondance de la ressource. Il y a que 23% du lithium qui est actuellement extrait en Chine, mais il y a 80% du lithium qui est raffiné en Chine.
Ah oui.
Donc effectivement, il va falloir qu'on comble ces décalages ici en Europe.
Du coup, les investisseurs, parce que c'est aussi un petit peu le but de cette émission, de donner quelques conseils à ceux qui s'intéressent à telle ou telle thématique, et notamment sur ces matières premières, quelles leçons les investisseurs peuvent recevoir à propos de ce lithium ?
Alors, dans le court terme, on a vu déjà en début d'année, les prix du lithium vont boucher avec la demande, avec les va-et-vient de la demande de court terme. Mais en moyen long terme, si on croit à nos propres scénarios de décarbonation, et on voit les dynamiques du marché des voitures, etc., il va avoir une forte attractivité du lithium, du coup une demande très très forte, une croissance très forte de la demande, et notamment une attractivité croissante dès la partie amont et mi-chemin, c'est-à-dire la mine, la synthèse pour le transport, le raffinage et la production des cathodes et anodes avant de rentrer la Gigafactory.
Donc voilà, donc l'investisseur, il ne doit pas se focaliser sur la grosse usine à la fin qui sortira X centaines de milliers de batteries, mais sur tout ce qui va permettre à cette grande usine de tourner, c'est ça ?
Tout à fait. Et il faut effectivement regarder le milieu européen et réfléchir aussi au recyclage de ces matériaux. Souvent, on parle du recyclage des batteries qu'on aura, mais il faut réfléchir à le recyclage des matériaux qui sont actuellement dans nos voitures et que peuvent être utilisés pour des batteries et des autres et la connectique électrique, ouais, en général.
Eh bien, on en sait un petit peu plus, effectivement, sur ce thème et notamment sur ce lithium. Merci beaucoup, Maria-Eugénia Sanin, d'être passée nous voir donc pour Paris-Saclay. Vous nous accompagnez assez régulièrement dans Matière à réflexion et on vous en remercie. Bon retour.
Merci.
Le marché parisien, il est en petite baisse, moins 0,15%, 7 395 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
La sélection de BFM Patrimoine, chaque semaine, deux gérants sont en plateau pour regarder, faire bouger, gérer cette sélection. Thibaut François et Jean-François Gilles sont là cette semaine. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Thibaut pour Fastea Capital, Jean-François pour Erasmus Gestion. D'abord, petite question de marché, là. C'est la pause, on se cherche un peu, on hésite, un coup au-dessus, un coup au-dessous des 7004. On n'a plus d'idées, Thibault ?
On n'a plus d'idées, non, mais c'est vrai que le marché digère un petit peu la période de publication de résultats du premier trimestre, avec ses côtés positifs et négatifs. On a eu beaucoup de très bonnes publications, on a eu aussi des déceptions. D'ailleurs, c'est une bonne journée pour parler des publications. C'est vrai que on a un petit peu de tout ce matin. Du côté allemand, ça se passe plutôt pas mal. On a Siemens et SAP qui ont fait une très bonne publication. Déception avec Euronext, mais bon, c'est pas une grosse surprise quand même. C'est que l'activité financière, notamment les introductions en bourse ont plutôt été une période plutôt calme sur le premier trimestre et un joli rebond aussi d'activité avec Vallourec qui fait mieux que les attentes, Ubisoft qui déçoit presque comme d'habitude, et voilà, donc on prend un peu tout ça, toutes ces publications, et puis on s'ajuste avec des secteurs qui restent très peu chers, des secteurs qui sont plutôt assez chers sur le marché, et on a toujours le plafond de la dette américaine qui est un petit peu l'épée de Damoclès dans les prochaines semaines, même si les scénarios américains sont toujours un petit peu comme ça. On pense qu'il va y avoir une solution de dernière minute comme d'habitude aux États-Unis, mais en tout cas ça peut aussi retarder certains investissements sur le marché financier.
Qu'est-ce que vous pensez de cette période un petit peu de calme ou de faux plat sur ces marchés, Jean-François ?
Elle me semble raisonnable. Quand même, nous avons depuis le début de l'année une progression à deux chiffres.
Ouais.
C'est bien. C'est tout à fait inattendu. C'est pas du tout ce qu'il y avait dans les prévisions des stratégistes au début de l'année. C'est justifié par certains éléments, et notamment les résultats, qui ont été meilleurs que prévus. Il se dit même maintenant, les analystes commencent à travailler sur le deuxième trimestre, et ils révisent plutôt à la hausse le deuxième trimestre. La question, c'est la fin de l'année. Et là, on voit bien qu'il y a une divergence entre ce que pensent les investisseurs, et si on regarde les marchés de futurs de taux, on voit que les marchés de futurs de taux montrent que les investisseurs pensent qu'il y aura entre 2 et 3 baisses des taux américains de 25 centimes avant le 31 décembre. Les premières personnes concernées, c'est-à-dire les membres de la Fédérale Réserve, du FOMC, comme on dit...
Ne croient pas du tout ça.
Pas du tout. Bon, alors, si les marchés ont raison, mais ça on le verra qu'au quatrième trimestre, ils pourront peut-être à ce moment-là aller plus haut. S'ils ont tort... ça sera déjà pas mal de défendre ces 12%.
Thibault le rappelait, il y a la question de ce plafond de la dette qui est revenu presque de façon inattendue. Ça vous inquiète ? Vous dites, oh, bon, c'est, on en revient à nos jeux traditionnels, à la frontière de l'économie et du politique ? Ou franchement, vous dites, un défaut américain, enfin, la menace d'un défaut américain, c'est jamais anodin ?
La menace, je le disais tout à l'heure, les Américains ils font ça souvent, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours, c'est toujours la dernière
toujours
minute.
Toujours le risque d'avoir trop crié au loup et.
Ouais, donc les Américains font ça régulièrement. À chaque fois ça se passe bien parce qu'ils sont obligés de trouver une solution. Effectivement, s'il n'y a pas de solution, il y aura un impact sur le marché. Mais ils sont plutôt pragmatiques. Il y a souvent une solution qui est trouvée. Et puis, comme d'habitude, ça sera, à mon avis, au dernier moment. Donc, pour l'instant, je trouve pas que ça soit un risque réel sur le marché.
Jean-François ?
Avis partagé. Je pense que c'est tous les deux ans, à peu près, donc une vingtaine de fois pour moi, que on rencontre cette situation. Il y a eu un cas où il n'y a pas eu d'accord avant l'échéance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. C'est que les gouvernants en place ont décidé, ont dit, on ne peut plus payer les fonctionnaires. Donc en fait, ça s'est retourné complètement contre les initiateurs du blocage, qui ont mécontenté une grande partie de la population.
On a fermé 2-3 parcs nationaux.
Voilà, exactement.
Bon, la sélection dans tout ça, que dire de la tenue du portefeuille ?
Ben, écoutez, j'étais en vacances là et je reviens, donc ça doit faire 4 semaines que j'étais plus...
Que vous nous aviez abandonné.
Voilà, que vous avez abandonné. Et je remarque qu'on est resté dans un bon niveau. On est à 12%, mais par contre, on a pris... le retard s'est accentué par rapport au CAC. Alors 12%, quand je regarde les OPCVM de même nature, n'est-ce pas, investis sur les actions françaises, c'est très bien. Mais c'est vrai que le CAC est impressionnant cette année. C'est sa composition et on n'y peut rien.
Un regard sur le comportement de la sélection ?
Pareil, on a fait du cash dernièrement, plutôt à juste titre hein, d'ailleurs, sur 7004, c'est assez logique de pouvoir faire un petit peu de cash. Jean-François vient de l'expliquer, effectivement, LVMH, on est pas loin des 13-14% du CAC 40, ça culmine encore en tête du palmarès du CAC, ou pas loin. On a 2-3 déceptions dans le portefeuille quand même. Un GTT qui est mou alors que pourtant les prises de commandes sont fortes et que la dynamique est extrêmement forte. Donc 2-3 dossiers sur lesquels on sous-performe qui sont à la traîne, et c'est vrai que la composition du CAC 40 qui nous aide pas, on peut pas avoir aujourd'hui 13% ou 14% de LVMH, et donc forcément on est un petit peu derrière par rapport à l'indice.
On rappelle qu'on est censé d'abord qu'on a que 20 lignes et que on est censé avoir des lignes entre guillemets équipondérées, donc effectivement on peut pas renforcer et suivre la composition de l'indice CAC 40. La semaine dernière, François et Amandine, les deux autres compères de cette aventure de la sélection, commençaient à débattre sur les questions de typologie, et notamment sur la capitalisation des valeurs qu'on avait. En gros, se dire la sélection était peut-être très typée grande valeur et qu'il était peut-être temps de réfléchir à se tourner vers les petites et moyennes capis qui sont, c'est vrai, un petit peu en retard. On rappelle qu'on doit avoir une capitalisation supérieure à 500 millions d'euros pour intégrer la sélection, pour éviter les problèmes de liquidité. C'est quelque chose qui résonne aussi dans vos maisons respectives, Jean-François, Thibault, qui veut se lancer sur cet intérêt ou pas des petites et moyennes capis.
Les petites et moyennes valeurs, depuis 2018, sous-performent largement les large caps. Les grandes capitalisations. Pour plein de raisons, il y a quand même eu des crises quand même assez importantes. Quand on a une crise assez importante, on se réfugie vers des titres qui sont liquides. Or, les petites et moyennes valeurs sont par nature peu liquides. Donc, on a privilégié vraiment les grandes capitalisations. Aujourd'hui, si on regarde intrinsèquement les valorisations des petites et moyennes valeurs avec celles des grandes valeurs, on s'aperçoit que non seulement elles sont moins bien valorisées, mais en plus elles ont un vivier de croissance qui est supérieur à ce qu'on pourrait trouver dans le CAC 40. Donc forcément, nous, on regarde davantage. Mmh. On s'aperçoit en plus que il y a certaines petites et moyennes valeurs qui sortent de bourse, parce que les financements en bourse, y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, les petites et moyennes valeurs ont pu aussi se capitaliser et sont des niveaux de marge qui sont assez importants. Donc elles n'ont pas forcément besoin d'avoir de gros moyens de financement. Donc aujourd'hui, pourquoi rester en bourse alors qu'on est extrêmement mal valorisé et que quand on rachète une entreprise qui n'est pas cotée, on paye sur des multiples qui sont bien supérieurs à ce qui est coté aujourd'hui. Encore un exemple dernièrement, on a une sortie de cote, c'est pas encore sortie de cote, mais Villemorin par exemple qui est en train de se faire OPA mm-hmm. par rapport à Limagrain, c'est Limagrain qui est en train de faire une OPA sur Villemorin, on sort avec la prime à 4,4 fois l'EBITDA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas normal de proposer 4,4 fois l'EBITDA. Et pourtant, je pense qu'on va pas être loin de la sortie de Villemorin. Aujourd'hui, le private equity, il a ralenti ces derniers trimestres, mais on est entre 9 et 10 fois l'EBITDA aujourd'hui encore sur le private equity. Et là, aujourd'hui, on va sortir les minoritaires à 4,4 fois l'EBITDA sur une boîte qui est en pleine croissance et sur une boîte qui a une forte visibilité. C'est dramatique pour certaines boîtes aujourd'hui qui sont en dehors du CAC 40, qui sont pas suivies, sur lesquelles il y a peu de liquidité, et aujourd'hui effectivement les valorisations sont vraiment à la casse sur ce segment de cote, et donc je pense qu'effectivement il y a des opportunités à avoir et à saisir dans les prochaines semaines.
Jean-François, votre sentiment sur ces valeurs en retard, sur ces petites et moyennes capis qui effectivement peuvent faire envie quand même?
C'est complexe. Je partage l'analyse qui a été faite en ce qui concerne la sous-performance depuis 5 ans et la sous-valorisation des entreprises concernées. Par contre, quand je regarde les flux, qu'est-ce qui se passe au niveau des flux ? Sur le niveau des flux, il y a toujours des souscriptions sur les ETF. Et il y a en face des rachats un peu plus importants que les souscriptions sur les fonds, sur les mutual funds. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc en clair, on privilégie toujours la gestion passive au détriment de la gestion active.
Oui. Et la gestion passive, elle est composée de quoi ? Elle est composée de titres qui composent les indices, et notamment les grands indices. Donc actuellement, il reste encore, en dépit de la décollecte globale, un flux de soutien sur les grandes entreprises, les larges capitalisations, qui n'existe plus sur les petites entreprises. Et je crois qu'il faudrait que ces flux s'inversent, ou tout au moins que les mutual funds recommencent à collecter, pour qu'on puisse voir l'intérêt se manifester progressivement, parce que la bascule, elle est pas si rapide que ça. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'en fait, compte tenu de la faible liquidité, quand ça commence à rebondir, ça rebondit vite.
Oui, c'est ça.
Mais par contre, la bascule des flux, elle est longue. Donc, je suis encore prudent.
Prudent, donc.
Et je constate que dans la sélection BFM Patrimoine, le titre le plus mauvais, c'est ALD. Avec moins 7 depuis le début de l'année. Le deuxième plus mauvais, c'est GTT. Tu en as parlé tout à l'heure. Et je me dis, finalement, tout ça a une logique qui correspond à celle des flux. Oui. Parce qu'ALD, par exemple, aussi, hein. Excellent résultat. Hein. Oui. Rien ne justifie le moins 7 depuis le début de l'année. Rien. Un rendement qui doit être de 10%, je crois. Incroyable.
Et la partie réglementaire aussi sur les petites et moyennes valeurs, les flux, c'est évident. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de flux sur les petites et moyennes valeurs, c'est évident.
Donc il n'y a pas d'intérêt.
En fait, et d'un point de vue réglementaire, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le marché Euronext classique et ils ont inventé le Euronext Growth et Euronext Access. C'est anciennement marché libre et Alternext.
Oui.
Aujourd'hui, dans un fonds classique UCITS, UCITS 5 ou UCITS 6, etc.
Donc pour des questions pures de réglementation.
D'un point de vue réglementation, ils sont en train de classer Euronext Access et Euronext Growth dans le ratio dit poubelle de 10%. Et il y a de plus en plus de valeurs qui vont sur ce genre de marché parce que c'est moins cher qu'Euronext. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être cotés. Et donc, effectivement, ils essaient de réduire les coûts et d'aller sur des marchés qui sont moins coûteux, c'est-à-dire moins d'obligations de reporting tous les trimestres, etc. Et donc, on va sur des marchés qui sont moins réglementés et donc qui sont moins accessibles aux investisseurs traditionnels. Donc, les flux se tarissent de plus en plus. C'est dramatique.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Exactement. C'est aujourd'hui...
C'est dommageable pour la cote, quand même, ça, Jean-François. Non ?
Oui, c'est à la fois dommageable pour la cote, mais je pense que Euronext y trouve son compte, puisque qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la part des entreprises françaises au sein de l'Eurostoxx 50, ou au sein du Stoxx 50, ne cesse d'augmenter, et que de ce fait, la capitalisation française et les plus beaux titres, les plus grands titres français, attirent les étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, est important aussi. Bon, on a vu au cours du dernier mois que, avec la capitalisation de LVMH, Monsieur Arnaud était devenu, vous savez quoi.
Bon,
voilà.
Un de nos auditeurs qui nous écrivait à l'instant. Je vais essayer de remettre la main. Voilà, c'est Antoine qui a entendu la semaine dernière Amandine défendre le cas d'Ipsos, mais qui souligne la contre-performance du titre et qui s'interroge du coup. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Antoine?
Ipsos, je suis pas un spécialiste du dossier sur Ipsos. Pourtant, les publications n'ont pas été mauvaises sur Ipsos, mais ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Jean-François sur les valeurs qui sont de moindre capitalisation. C'est qu'il y a une sous-performance par rapport aux grandes caps qui est évidente depuis quelques années. Donc Ipsos sous-performe par exemple Publicis nettement depuis quelques années.
Ipsos, qu'est-ce qu'on peut dire à Antoine qui...
Oui.
Je ne sais plus qui était l'auditeur qui nous interrogeait effectivement la semaine dernière.
Ce que nous ont dit les dirigeants lors de la publication du premier trimestre 2023, c'est que la situation allait s'améliorer trimestre après trimestre. N'oublions pas quand même que l'année 2022 pour Ipsos a été exceptionnelle. Hein, et nous l'avions déjà le titre. Bon, alors est-ce qu'il faut attendre ? Il n'y aura pas de nouveau avant le 20 juillet, disons. Et de toute façon... et la référence à Publicis est très pertinente. De toute façon, ce qui est visé comme objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'année restera largement inférieur à celle de Publicis. Donc on est tout à fait sur ce titre-là, c'est une démonstration de ce que nous disions auparavant.
Et donc, il faut, vous dites qu'il faut réfléchir à moins 22 ou c'est trop tard pour vendre? Enfin, on se souvient qu'on a eu quelques dossiers comme ça qui étaient, qui ont un peu traîné en se disant à ce prix-là, on ne veut pas vendre, mais qui quand même ont baissé.
Peut-être vendre ce rebond, je ne sais pas.
Ouais, moi, je n'ai pas d'avis particulier sur Ipsos. Je ne suis pas forcément acheteur du dossier, moi.
Juste pour terminer, la part de liquidité qu'on a pour le moment, ces trois lignes, ça vous convient? Vous êtes à l'aise avec? Ou vous vous dites qu'effectivement, si ce n'est pas avec des mid-cap, il faut quand même compléter un petit peu le tir, vu les conditions de marché ou pas?
On a parlé de Mersen pour une entrée dans les prochaines semaines. Moi, je suis pour une entrée de Mersen. Ils ont fait une opération de refinancement qui est assez intéressante pour les prochaines années et on trouve que le secteur est extrêmement porteur.
Donc plutôt prendre un peu dans la poche de liquidité.
Sur opportunité.
Jean-François?
Alors, à la fois, j'aime bien Mersen que nous avons dans certains portefeuilles chez Erasmus, mais à la fois, je suis confortable avec la 15% de liquidité. Et je préférais attendre la visibilité sur les taux dont j'ai parlé en début d'émission pour réduire la liquidité.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir géré cette semaine la sélection, donc pas de mouvement pour le moment. Jean-François Gilles, Erasmus Gestion, et Thibaut François pour Fastea Capital. Bon retour dans vos maisons respectives. Dans un instant, c'est 90 minutes business et on accueille donc Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Que nous proposez-vous ce midi?
On va parler des négociations autour de Casino qui s'accélèrent avec Mathieu Pechberti. On va parler aussi des industriels qui étaient reçus à Bercy ce matin. Ça y est, ils ont commencé à sortir. On écoutera Jean-Philippe André, ça avance un peu les négociations, la reprise des négociations commerciales. Et puis, on parlera du film, du Festival de Cannes avec Unifrance qui sera avec nous. C'est Daniela Elsner, la directrice générale d'Unifrance, qui nous parlera de la vente des films français à l'étranger.
À suivre donc dans une poignée de secondes sur BFM Business, 90 minutes business et Sandra Gandoin. Le CAC 40, lui, est toujours très hésitant sur les 7401 points. Il laisse filer modestement 0,07%. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin, 10h. Nous serons au rendez-vous en ce jour férié.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.